vous avez vu dans le passage du Saint-Père, parce que ça vous intéresse tous, n'est-ce pas, l'approche de Dieu par l'ontologie proprement dite, centrée sur l'intuition de l'être, dans la perspective thomiste, demeure irremplaçable. Alors comprenez bien, ça ne veut pas dire que l'intuition de l'être devient, à partir de là, que l'intuition de l'être devient à partir de là, sacro-saint, justement, et que ça devient exactement comme Toulouse avait dans une antique, Toulouse avait dit, avait parlé du principe de raison suffisante. Parmi les grands principes thomistes, ça va être le principe de raison suffisante. Alors, c'est là où il faut très comprendre que dans les livres, hein, c'est que le Saint-Père, forcément, c'est toujours un enseignement in communis. C'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Alors, c'est un enseignement que nous devons essayer de comprendre, nous, chacun selon notre manière. Vous voyez ? Et l'intention, on va regarder, ce que le Saint-Père veut rappeler ici, c'est que notre intelligence humaine, elle est faite pour connaître la réalité. Je ne peux pas dire autre chose, disons, d'être dans la pensée du Saint-Père. C'est que notre intelligence humaine est faite pour la réalité. Elle est faite pour atteindre les... Donc, jugement d'existence. Vous voyez ? Il s'agit de comprendre ces choses. Je dis ça parce que justement, c'est assez amusant, tu vois ? C'est assez amusant ce petit passage qui est assez joli. Alors c'est bien de bien le comprendre, je ne veux pas faire plus. Hein. Si vous aviez des questions là-dessus, vous me le diriez, parce que c'est quand même intéressant. Heureusement que j'avais prévu l'histoire, et que nous avons sauvé l'intuition de l'être, mais en la situant exactement, et en disant que l'intuition de l'être permet l'induction et l'interrogation. Alors nous allons continuer. Ceci, c'est l'apéritif. Mais pas pour vous mettre dedans. Nous allons continuer. L'article 3, avec ses seules forces naturelles, sans la grâce, l'homme est le Dieu par le Dieu. Alors, nous l'avions vu, pas de question. Je le relis si vous voulez, ou bien c'est pas la peine, si vous avez suffisamment. Quoi ? Des objections, oui, mais le corps de l'article, c'est pas la peine de le relire. Je le relis pour que vous soyez en acte. Alors, le 7 contrat. À supposer, comme certains le font, que le premier homme ait été établi d'abord dans un état purement naturel, il eût dû alors aimer Dieu, et non pas seulement autant que soi, ni surtout moins que soi, dans les deux cas, c'eût été péché. Il lui fallait donc l'aimer plus que soi. Par conséquent, il faut admettre qu'avec ses seules forces naturelles, l'homme peut aimer Dieu plus que lui-même et par-dessus tout. C'est très rare que les sept contrats de saint Thomas reposent sur une hypothèse. C'est un cas extrême. Vous voyez, donc ça ne prouve rien. C'est un cas hypothétique. Comme certains l'ont dit, prius in salus naturalibus constitutionis ut a quibus d'avoldur. On s'est posé par certains, ça. C'est une hypothèse. Alors, vous voyez qu'un tel contrat qui d'habitude repose sur l'autorité, ici, ce contrat repose sur une hypothèse. C'est extraordinaire. Ce qui montre la souplesse du Moyen-Âge, hein, et combien quand on systématise ça, c'est tout à fait faux. Exactement comme les carbonistes du Moyen-Âge. Hein, c'est d'une souplesse extraordinaire. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bon, il y a ici, cet contrat fait que ça repose sur une hypothèse. Une hypothèse dont saint Thomas n'est pas d'accord, tant que mieux. C'est une hypothèse, donc une opinion, tout simplement, l'opinion de ceux qui disent et qui prétendent que l'homme a été créé dans un état de pure nature. Alors que pour saint Thomas, l'homme a été créé dans un état de justice originelle, donc avec la grâce. Avec la grâce sanctifiante, une grâce de justice originelle. Donc, c'est une hypothèse que saint Thomas n'accepte pas, et en fonction de cette hypothèse, on dit, voyez bien. Donc, c'est extrêmement délicat à manier, hein, ce sept contrat. Regardons le corps de l'article. Comme nous l'avons déjà dit dans la première partie, nous avons indiqué les diverses opinions qui se sont aussi rencontrées touchant l'amour naturel des anges, l'homme, dans son intégrité primitive, pouvait par ses seules forces accomplir le bien qui est en rapport avec sa nature,
sans avoir besoin pour cela qu'aucun don gratuit lui fût encore ajouté. Donc nous voyons bien ce que saint Thomas veut montrer, c'est que l'homme, dans ses propres, dans son intégrité primitive, c'est-à-dire en faisant appel à la nature humaine, sans les conséquences du péché, sans l'état de corruptibilité ou de corruption dans lequel il se trouve actuellement. Donc, c'est encore une hypothèse, hein, voyez-vous, parce que ça n'a jamais existé comme ça. La nature humaine n'a jamais existé. Alors comprenons, ce n'est pas une hypothèse ici, c'est au fond le regard sur la nature humaine. Alors comprenons bien, nous sommes en théologie, hein. En philosophie, ça ne marcherait pas. Nous sommes en théologie, donc il y a la foi qui nous dit que l'homme est l'image de Dieu. Il ne faut pas oublier ça, autrement ça n'a pas de sens. Vous voyez, et des articles comme cela sont très intéressants pour bien comprendre justement la manière dont saint Thomas raisonne. Et si on fait, vous voyez, c'est là, si on désacralise la somme, c'est-à-dire si on prend ce que saint Thomas nous dit là, dans un point de vue purement philosophique, alors ça n'a plus de signification. Vous voyez, on fait de la nature prise en elle-même comme si elle était concrète. Ça a une signification dans la foi. Dans la foi, je regarde l'homme, la nature humaine. Hein. La nature humaine créée à l'image de Dieu. Alors, cette nature humaine créée à l'image de Dieu a un appétit naturel. Puisque toute nature a un appétit naturel. Toute forme, d'une fait même qu'elle est une détermination dans l'ordre de l'être, elle est ordonnée vers un bien. Et c'est ça l'appétit naturel. Elle est ordonnée vers un bien. Un bien qui est comme naturel à cette nature. Et ceci, ça fait partie de l'intégrité de la nature. Ça fait partie des exigences propres de la nature. C'est pour montrer que toute réalité, cette même réalité, implique un ordre vers le bien. Ça s'appuie sur tout ce que Aristote dit dans la physique à propos de la nature implique une finalité. Il y a une finalité naturelle. Ce qui nous finalise n'est pas quelque chose d'extrinsèque à nous. C'est ce qu'il y a de plus profond dans la nature humaine. C'est ce plus profond dans la physique, dans la nature, d'une façon générale. C'est ordonné vers quelque chose qui est son bien. N'oublions pas cependant qu'il lui fallait toujours l'impulsion de Dieu premier moteur. Donc ça c'est le premier rappel de saint Thomas. Cette nature, vous voyez, vous êtes bien en théologie, c'est bien une vision de sagesse. Dans la vision de sagesse, l'image de Dieu est créée par Dieu. Donc, nécessairement, l'exercice de cet appétit naturel, l'exercice de cet appétit naturel vers son bien comme naturel à cette image, cet exercice ne peut se faire qu'avec l'auxilium, le secours de Dieu, comme premier moteur. Alors, ceci, vous voyez, vous ne pouvez le dire que dans un jugement de sagesse, vous ne pouvez pas le dire autrement, puisqu'on ne peut pas le détecter. On ne peut pas le saisir. Naturellement, vous saisissez votre appétit naturel, votre désir d'aimer un bien. Mais vous ne pouvez pas, dans le désir du bien, détecter l'exercice même, cet auxilium de Dieu. Cet auxilium ne peut se saisir que lorsque j'ai posé Dieu créateur, créateur d'un esprit, donc Dieu Père. C'est le point de vue de la paternité de Dieu, ça. C'est Dieu Père qui conserve et guide et oriente l'image de Dieu qui est l'homme vers son bien. Et donc il le guide en le portant. N'oublions pas cependant qu'il lui fallait toujours l'impulsion de Dieu premier moteur. Or, aimer Dieu par-dessus tout est conforme à la nature de Dieu. C'est même conforme à la nature de n'importe quelle créature, raisonnable ou non, et même à celle de la créature inanimée, si l'on s'en tient au genre d'amour qui peut lui être demandé. Alors je vous avais dit corriger ce genre d'amour, parce que ça signifie rien du tout. Selon le mode d'amour
selon le mode, c'est pas la même chose.
La raison en est que tout naturellement, chacun désire et aime suivant la disposition naturelle de son être. On agit comme on est, dit Aristote. Ça, c'est la fameuse affirmation que chacun agit en tant qu'il est capable d'être. Cette traduction est très difficile. Sic enim agit unum quodque, pro ut aptum natum est. On va chercher à traduire ça. Donc chacun agit selon ce qu'il est, selon sa propre détermination. Vous voyez, quand on dit agit simile sibi, c'est la même chose, c'est une autre manière de voir. Mais chacun d'entre nous, nous avons une inclination selon la détermination la plus foncière qui est en nous. Cette détermination la plus foncière qui est en nous, c'est notre nature. Notre nature, c'est pas autre chose que ça. La nature d'un être se manifeste à travers son inclination, à travers son appétit. Vous dépistez la nature d'un animal quand vous le voyez brouter de telle ou telle manière. Et vous dépistez un hippopotame, c'est autre chose qu'un cheval. N'est-ce pas ? Bien qu'ils ne soient pas sur les deux côtés. Mais c'est pas la même chose. Mais ils broutent différemment. Mais ce sont toujours des gens qui broutent. Plus longuement dans la baignoire. C'est l'ami de la baignoire, l'hippopotame. Alors, la raison en est que tout naturellement, chacun désire et aime, pensez à l'hippopotame quand on dit ça. Alors ça donne un petit fantasme, n'est-ce pas ? La raison en est que tout naturellement, chacun désire et aime, suivant la disposition naturelle de son maître. On agit selon ce qu'on est, comme dit Aristote. Mais il est manifeste que le bien de la partie est pour le bien du tout. Alors, vous avez dit ça, c'est très très important. De voir comment saint Thomas se sert ici d'un adage. C'est un principe sans être un principe, parce que c'est un principe. C'est pas un principe pour moi. On est dans l'ordre, on n'est pas dans l'ordre au sens de la fine. On est dans la finalité, mais c'est l'application. Vous voyez, le bien de la partie est pour le bien du tout. Il est manifeste que le bonum partis est propter bonum totius. Le bien de la partie est pour le bien du tout. Donc le bien de la partie, tout le bien de la partie, ce qui achève une partie, ce qui permet à une partie d'être parfaitement elle-même, c'est pour le tout. Il y a un lien entre partie et tout. Vous voyez ? Et ce lien se retrouve nécessairement quand il s'agit du point de vue de l'appétit. Par conséquent, chaque objet particulier aime, même d'un appétit ou d'un amour naturel, son propre bien en vue du bien commun de tout l'univers qui est Dieu. Alors là encore, faisons attention. Parce que le bien commun de tout l'univers qui est Dieu, comprenons bien, Dieu n'est pas identique au bien commun de l'univers. Mais le bien commun de l'univers est ordonné à Dieu. Voyez la différence que fait Aristote à la fin des métaphysiques entre le bien immanent de l'univers et le bien transcendant de l'univers. Et c'est la comparaison avec l'armée. Le bien immanent de l'armée, c'est son ordre. Le bien transcendant de l'armée, c'est la victoire. La victoire est tout de suite toujours là. Et ça, c'est le bien transcendant de l'armée. Et il fait le parallélisme entre le bien immanent et le bien transcendant. Ce qui reste très intéressant à bien voir. Alors ici, saint Thomas bloque les deux. Et ça, c'est le théologien. Parce que le théologien, dans une lumière de sagesse, je bloque les deux. Mais dans une lumière philosophique, je ne pourrais pas faire ça. Dans une lumière philosophique, ce serait dangereux, ce serait le stoïcisme. Dans le stoïcisme, je bloque l'immanent et le transcendant. Comme dans l'hégélianisme. C'est la même confusion. On bloque l'immanence et le transcendant. Donc le bien de l'univers et Dieu seraient bloqués immédiatement. C'est l'ontologie, si vous voulez. Alors, par conséquent, chaque objet particulier aime, même d'un appétit ou d'un amour naturel, son propre bien en vue du bien commun de tout l'univers qui est Dieu. C'est ce qui fait dire à Denis que Dieu fait tout converger à l'amour de lui-même. Donc, l'homme, dans son intégrité première,
rapporter l'amour qu'il avait pour lui-même à son amour de Dieu, qui en est la fin. Et il en est de même de l'amour qu'il avait pour tous les autres objets. Ainsi, il aimait Dieu plus que lui-même et par-dessus tout, selon un amour naturel. Aimer Dieu par-dessus tout a un fondement naturel. Voilà ce que ça veut dire, hein, au point de vue théorique. Aimer Dieu par-dessus tout a un fondement naturel. Pourquoi ? Parce que la partie, normalement, aime son propre bien en vue du tout. Oui, comme raisonnement, c'est très très délicat. Ça a un sens quand vous le prenez dans le jugement de sagesse. Autrement, c'est ontologique. C'est intéressant pour voir la manière, vous voyez, dont on a sécularisé la pensée de saint Thomas avec Suarez, et alors comment l'ontologisme se réintroduit dans la pensée, dans la pensée de lui. Ça, c'est un cas qui est assez typique, hein. C'est l'article le plus manifeste pour ça, et le plus intéressant pour ça. C'est l'intérêt de cet article. Et alors, il faut le repenser théologiquement. Alors, dans un jugement de sagesse, c'est très vrai. Dans un jugement de sagesse. Alors, comprenez bien, parce que quand je dis jugement de sagesse, je veux dire un jugement qui se fait à partir de Dieu. Donc, on a déjà découvert l'existence de Dieu, on l'a découvert comme créateur et comme créateur dans sa sagesse. Alors, dans la lumière de Dieu, je peux dire ça. Je peux dire que dans la lumière de Dieu, l'image qui a un appétit naturel vers son bien propre, ce bien propre est ordonné vers le bien du tout. Et le bien du tout, c'est Dieu. Ça ne peut se comprendre que dans un mouvement de la tête. Mais dans l'état de déchéance, donc dans l'état dans lequel nous nous trouvons, hein, dans l'état de déchéance, et ça c'était, j'allais dire, une vision abstraite de la nature humaine considérée dans la lumière de la sagesse de Dieu. Dans l'état de déchéance actuel, l'homme n'a pas su se maintenir à ce niveau et l'appétit de sa volonté rationnelle, en conséquence du désordre de sa nature, produit son bien, poursuit son bien privé tant qu'il n'est pas remis en état par la grâce de Dieu. Il faut donc conclure que dans son intégrité, l'homme n'avait pas besoin pour aimer Dieu naturellement par-dessus tout qu'une grâce fût ajoutée par surcroît à ses facultés naturelles, bien qu'il lui fallait toujours le secours de la motion divine. Dans l'état de corruption qui suivit, rien que pour arriver à cette sorte d'amour, il lui faut le secours d'une grâce qui assainit sa nature. Nous sommes dans un état de paludisme, nous sommes dans un état de corruption, et dans cet état de corruption, il faut la grâce qui guérit, la grâce sanante, donc la grâce qui guérit, pour permettre à la nature humaine de retrouver son état d'intégrité d'image de Dieu. Et pour pouvoir alors aimer son bien propre pour le bien du tout, c'est-à-dire pour Dieu. Et donc pour pouvoir dire que naturellement, il aime Dieu par-dessus tout. Tout en aimant son bien propre, il aime Dieu par-dessus tout. Okay. J'espère que vous voyez, on a souligné la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus, on a souligné tout ce qu'il y a de complexe dans cet article. Ça vaut la peine de l'étudier la plume à la main, parce qu'il y a des tas de choses là-dedans. Et donc de bien saisir ce que ça représente. Je vais voir tout de suite maintenant l'objection première. Aimer Dieu par-dessus tout, c'est l'acte propre et principal de la charité, vertu que l'homme ne peut avoir de lui-même. Puisque d'après l'apôtre, la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Caritas Dei diffusa est in cordibus nostri per spiritum sanctum. Voyons tout de suite la réponse de saint Thomas. Sans doute, la charité, elle aussi, aime Dieu par-dessus tout. Mais c'est d'une autre façon que la nature, d'une façon plus éminente. La nature aime Dieu par-dessus tout, en tant qu'il est le principe et la fin du bien naturel, tandis que la charité l'aime comme objet de béatitude et en tant que l'homme se trouve avec Dieu dans une sorte de communauté spirituelle, dans une sorte de société spirituelle, ça s'appelle une società.
C'est très rare le mot società, c'est un peu rare. Alors, c'est intéressant de voir ça. Société spirituelle.
La charité surpasse encore l'amour naturel de Dieu par une certaine promptitude et délectation qu'elle ajoute. La possession habituelle d'une vertu conférant toujours cette double supériorité à l'acte, déjà bon en lui-même, qui ne le posséderait pas s'il était produit par la seule faculté naturelle, non ni la vertu.
Donc ce second point de vue, c'est simplement pour nous rappeler que grâce à l'habitus de charité, l'acte de charité qui fait aimer Dieu par-dessus tout implique une promptitude et une délectation. Ce que donne tout habitus. Vous voyez, nous pouvons faire un acte d'obéissance naturellement si nous sommes suffisamment prudents. Nous comprenons qu'il est bon dans certains cas d'obéir. Bon, nous faisons cela par prudence, parce que c'est notre bien. Si nous avons la vertu d'obéissance, nous ferons ces actes d'obéissance avec promptitude et joie. C'est le signe que vous avez la vertu. Quand c'est de la promptitude et de la joie, quand c'est dur et qu'on récrimine, ça prouve, tout en le faisant, ça prouve qu'il n'y a pas la vertu. La vertu commence à pousser quand il y a la promptitude et la joie. C'est très joli ça, c'est vrai. Pour tout acte c'est comme ça, hein. Pour n'importe quel acte c'est comme ça. Je dirais même pour les habitudes intellectuelles, vous voyez. Quand on fait de la métaphysique avec promptitude et joie, ça prouve quand l'habitus métaphysique commence à pousser. Que l'habitus philosophique commence à pousser. Quand c'est dur, c'est pénible, ça, ça. On a le moteur ronfle et ne bouge pas, on a une peine énorme, ça grince. Alors, ça prouve qu'il n'y a pas encore l'habitus. L'habitus d'art, c'est la même chose. Vous voyez ? L'habitus d'art, c'est la même chose. Quelqu'un qui arrive à faire avec promptitude et délectation. C'est beau du reste, promptitude et délectation. Vous voyez, la joie qu'on a à opérer, à réaliser telle chose, sont le signe de la vertu. C'est juste l'inverse de la vertu stoïcienne. Vous voyez, la vertu stoïcienne n'a pas de délectation. Surtout pas. La vertu aristotélicienne et thomiste a de la délectation. C'est pour ça qu'on est plutôt aristotélicien et thomiste que stoïcien. Parce que pour un stoïcien, il ne faut jamais s'arrêter. Il n'y a pas de délectation. C'est extraordinaire. Ce n'est pas étonnant, parce que les stoïciens sont anti-épicuriens. Aristote est au-dessus de la distinction et de l'opposition épicure et stoïcien. C'est pour ça que la vertu va impliquer une promptitude et une joie. Alors, vous voyez bien la différence que saint Thomas montre ici.
C'est très vrai. Aimer Dieu par-dessus tout peut se comprendre de deux manières, naturellement et surnaturellement. Aimer Dieu par-dessus tout naturellement, c'est tout simplement l'appétit naturel de la partie, de la créature, en tant que partie, vis-à-vis de son bien, qu'elle aime comme un bien à cause du bien du tout. Et alors, on aime Dieu par-dessus tout, parce qu'on l'aime comme le tout. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'aimer Dieu de charité, au-dessus de tout, c'est l'objet propre de la charité, c'est-à-dire qu'on aime Dieu en regardant Dieu comme il s'aime. La charité nous fait aimer Dieu comme il s'aime, à partir même de la communication de son amour. Alors nous l'aimons par-dessus tout parce que nous l'aimons à partir de son amour. À partir de son amour qui nous est communiqué, à partir de l'Esprit Saint qui nous est communiqué par la charité. Et alors nous l'aimons dans sa propre lumière. Mais ce n'est pas seulement comme le terme qui achève, mais nous l'aimons directement comme celui qui nous donne la qualité particulière à notre amour. Seconde objection. Aucune créature ne peut s'élever au-dessus d'elle-même. Or, aimer une chose plus que soi, n'est-ce pas chercher à se dépasser soi-même? Donc, pour qu'une créature puisse aimer Dieu plus qu'elle-même, il lui faut le secours de la grâce. Réponse de saint Thomas. Quand on dit qu'aucune nature ne peut s'élever au-dessus d'elle-même, il ne faut pas entendre par là qu'elle ne puisse se porter sur un objet qui est au-dessus d'elle, car il est manifeste que notre intellect peut connaître d'une connaissance naturelle ce qui est au-dessus de lui. C'est le cas, par exemple, de la connaissance naturelle que nous pouvons avoir de Dieu. Vous voyez, par l'intuition de l'être, n'est-ce pas, selon le document pontifical, n'est-ce pas. Saint Thomas ne dit pas ça, vous voyez, il ne dit pas l'intuition de l'être, il dit tout simplement que nous avons tout simplement la possibilité de connaître naturellement Dieu, car il est manifeste que notre intellect peut connaître d'une connaissance naturelle ce qui est au-dessus de lui. C'est le cas, par exemple, de la connaissance naturelle que nous pouvons avoir de Dieu, parce que notre intelligence se porte naturellement vers l'être, est-ce ce qui est. Ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est est-ce, primo cadit in intellectu est-ce. Et c'est pour ça que l'intelligence peut dépasser le point de vue sensible, connaître la réalité dans ce qu'elle a de plus profond, et à partir de là, atteindre Dieu. Il faut entendre cette proposition en ce sens qu'une nature ne peut arriver à produire un acte qui ne soit pas proportionné à sa puissance et qui la dépasse. Mais tel n'est pas l'acte d'aimer Dieu par-dessus tout. C'est au contraire un acte naturel à toute créature, comme nous venons de le montrer. Vous voyez, c'est bien le sens de cet article-là. C'est de montrer qu'aimer Dieu par-dessus tout s'enracine profondément dans notre nature humaine, parce que notre nature humaine est créée. Donc c'est bien un jugement de sagesse. Je crois que c'est très important de se dire, pour ne pas faire dire à saint Thomas des choses que saint Thomas ne dit pas. Troisième objection: Dieu bien suprême a droit à un amour suprême, c'est-à-dire à être aimé par-dessus tout. Mais si l'homme pouvait y arriver sans la grâce n'aurait plus de raison d'être. Réponse: on peut parler d'amour suprême. Donc, amor dicitur summum, l'amour suprême, l'amour souverain. Non solum quantum ad gradum dilectionis, sed etiam quantum ad rationem diligens. Ça, c'est très très joli comme distinction. On peut parler d'amour suprême non seulement parce qu'on aime par-dessus tout, mais encore par suite de la raison qu'on a d'aimer et du mode spécial de l'amour. À l'entendre ainsi, c'est la charité qui a l'amour suprême, elle qui aime Dieu considéré comme étant lui-même notre béatitude. Ça, c'est subtil. Si vous avez bien compris cette raison de saint Thomas, je le relis en latin parce que le français est incompréhensible, n'est-ce pas. Ça arrive souvent, c'est mal traduit. Il y a une précision qu'il faut saisir parce que c'est subtil. Hein. Alors, amour dicitur summum. Donc, qu'est-ce que c'est l'amour suprême? L'amour summum, l'amour qui est au-dessus de tout. L'amour au-dessus de tout, summum. Non solum quantum ad gradum dilectionis, sed etiam quantum ad rationem diligentis. Donc, je peux regarder le summus de deux manières. Comme le grade suprême. Le grade suprême, vous voyez, peu importe comment je suis arrivé, tout simplement pour dire ça. Il y a deux manières d'y arriver. Quand vous gravitez une montagne, il y a le petit sentier et puis il y a d'autres. Hein? Alors, le grade suprême, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Voilà. C'est le summum. Amor summus. C'est très beau de voir ça. Amor summus. Donc, aimer Dieu par-dessus tout. C'est le dernier. Je ne peux pas aller au-dessus. Je ne peux pas aller au-delà de Dieu. C'est difficile. Vous voyez, on aurait à ce moment-là un petit peu trop imaginatif.
Donc, l'amour soumis. Le grade suprême, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Voilà. C'est le soumis. Amor soumis.
C'est très beau de voir ça.
Amor soumis. Donc, aimer Dieu par-dessus tout. C'est le dernier. Je ne peux pas aller au-dessus. Il ne faut pas aller au-delà de Dieu. C'est difficile. Vous voyez, on aurait à ce moment-là un petit peu trop imaginatif. Donc, l'amour soumis peut s'entendre de 10 façons. C'est le grade suprême. On ne dit pas comment on y va, mais c'est le grade suprême. Et puis, on peut regarder la ratio amoris, la ratio diligendi, la manière d'aimer. Donc, il y a deux manières, c'est le modus, alors, à ce moment-là. La ratio, c'est très amusant, je dirais, de voir. C'est etiam quantum ad rationem diligendi et modus dilectionis. Vous avez la ratio et le modus. C'est pas mieux, c'est pas mieux. Manière de parler, c'est extrêmement beau de voir ça. Vous avez le gradus. Alors, vous comprenez, le grade suprême. Le grade suprême, c'est le terme. Vous êtes arrivé à ce terme. Vous êtes arrivé à aimer Dieu au-dessus de tout. Bon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc c'est le grade suprême d'amour. Alors, sous vous, je regarde le grade. C'est le grade suprême. Je l'aime au-dessus de tout. Mais il y a diverses manières d'arriver à cela. Le petit sentier ou l'autoroute. Très bien, ça. On fait la course. Celui qui prend le sentier, il prend l'autoroute. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre là les manières d'atteindre. Alors, c'est la ratio. Comment j'aime Dieu, surtout la ratio d'Ijani. Et la ratio d'Ijani, comment le mot douce. Le mot douce est une conséquence. J'aime Dieu selon un mode surnaturel ou un mode naturel. Et parce que je l'aime selon un mode naturel ou un mode surnaturel, la ratio d'Ijani est différente. Je l'aime pour lui-même et par son amour. Donc, ratio diligendi, ça c'est moins surnaturel. C'est le petit sentier. De toute façon, selon naturel, c'est l'autoroute. On aime la partie, et parce qu'on aime la partie, on aime le tout. Et, donc, ça c'est la ratio diligendi et le ratio diligendi. Et c'est qu'on donne hoc, supremus gradus dilectionis. Donc, le suprême grade de direction est. Par lequel la charité aime Dieu comme celui qui nous béatifie. C'est-à-dire, la ratio diligendi, la raison d'aimer et la manière d'aimer Dieu, c'est d'aimer en tant que Dieu me béatifie. C'est Dieu qui est mon bonheur. Donc je l'aime directement lui-même en tant qu'il me communique son amour. Tandis que de l'autre côté, j'atteins le même suprême grade. Je l'atteins naturellement, et je l'atteins donc comme un terme. Je l'atteins pas comme ce qui spécifie directement mon amour. Oui.
Pour ceux qui s'intéressent à un langage précis de Saint Thomas, cette dernière réponse est très intéressante. Parce que vous avez la question des gradus.
Les gradus, c'est traditionnel, depuis Saint Anselme. Les grades d'être, les grades du bien, les gradus de hiérarchie. Oui. C'est assez gros. Et je regarde attentivement. Ça c'est bon, c'est pas scientifique, c'est descriptif. Je peux regarder les gradus. Ça c'est scientifique. Ce qui est proprement, je veux dire, c'est pas scientifique, c'est descriptif. Si je veux alors vraiment comprendre la chose en précis, je dois regarder la ratio d'aimer, la raison d'aimer. Et dès que je regarde la raison d'aimer, je vois la manière particulière d'aimer. Donc le mot doux est commandé par la ratio. Et le gradus, c'est simplement la manière de comprendre. Oui, c'est intéressant parce que c'est rare qu'on retrouve dans une petite phrase ces trois expressions différentes. Gradus, ratio, modus.
Alors, avis aux amateurs. Hein. Le gradus, c'est les échelons.
Oui, c'est comme vous mettriez, si vous voulez, les états, les gradus. C'est les états. Premier état, deuxième état, troisième état. Alors, Dieu, c'est le dernier état. C'est le grade soumis, on ne peut pas aller plus loin.
Donc c'est le dernier étage. Mais vous pouvez y aller avec l'escalier de service ou bien vous pouvez y aller avec l'ascenseur.
Alors ça, c'est la ratio. La ratio d'Ijani, la manière dont on l'aime. et la manière dont on l'aime va commander une eau douce. Si je l'aime pour lui-même et en lui-même parce qu'il me communique son amour, alors c'est celui qui me dirige, c'est Dieu qui me dirige. Tandis que dans un amour naturel, ce n'est pas Dieu qui me béatifie de son propre amour. Je l'aime par mon amour naturel. Mon amour naturel me conduit vers lui. C'est l'amour naturel que j'ai de mon propre bien me conduit vers lui. Mais il ne me fait pas aimer Dieu, vous voyez, sans me aimer Dieu au-dessus de tout, mais selon la raison naturelle. Tandis que de l'autre côté, c'est selon la raison surnaturelle. C'est Dieu qui lui-même est l'ascenseur de l'éternel. C'est ça, c'est l'ascenseur ou l'escalier de l'éternel.
Pas de question, on peut y aller. Oui.
Hier, on vous dit que le jeu de Dieu pourra être même naturellement dans l'homme. C'est la seule.
Ah oui, c'est la seule, c'est pour trouver la puissance de l'éternel, mais vous montrez qu'il n'y a pas pour tradition. C'est la même chose. C'est du vrai négatif, c'est toujours du vrai négatif, c'est très très difficile de considérer le magie de la puissance des angels. Les liens entre la nature et la nature sont très difficiles du côté de la physique. Le propre de la physique est le plus distingué. Les deux degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Les deux degrés de vie, pour un instant, se prennent du côté de l'assimilation. On assimile différemment. Le degré de vie végétative, le degré de vie le degré de vie sensible, le degré de vie intellectuelle. Chaque fois, on assimile différemment. Ça, c'est le différent degré de vie. Il faut pas du côté d'assimilation. Tant que du côté de l'inclination, qui n'est pas l'assimilation, c'est la vie. Alors, du côté de la vie, on ne peut plus distinguer avec autant de vie et de vie. Pourquoi? Parce qu'on touche le même terme. L'amour souverain, le grade suprême des yeux par les cités. Oui. Mais il y a deux manières de le faire. Une manière naturelle et une manière surnaturelle. La manière naturelle, j'aime Dieu par-dessus tout parce que Dieu est mon tout. Oui. J'aime Dieu par-dessus tout parce que Dieu est mon tout. Or, j'aime naturellement mon bien de partie de créature. Or, la partie est ordonnée au tout. Donc, si la partie est naturellement ordonnée au tout, j'aime naturellement Dieu par-dessus tout. Mais je l'aime par mon bien. Par la médiation de mon bien, c'est le bien de la partie. Tandis qu'aimer Dieu par-dessus tout, surnaturellement, c'est l'aimer parce que Dieu me communique son propre amour, et alors j'aime Dieu par l'intériorité même de son amour. Et c'est pour ça que c'est difficile. Il n'y a plus de moyen terme à ce moment-là. Un télescope est moyen terme. De l'autre côté, on maintient le moyen terme. Et le moyen terme, c'est la partie qui aime le tout, au-dessus de tout. C'est assez subtil, hein. Mais c'est beau, c'est très beau. C'est difficile, c'est intéressant, parce que nous sommes à la jointure de l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Dans une vision de sagesse, on est à la jointure des deux. On comprend comment tous les deux terminent. Oui, alors, à ce point de vue-là, c'est très juste. C'est le rapport entre la norme naturelle et la surnaturelle. L'ordre naturel et la surnaturelle, tous les deux, du côté de l'appétit, se terminent à ce grade suprême. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas d'opposition entre la grâce et la nature. Entre la grâce et la nature, il n'y a pas d'opposition, puisque de fait, tous les deux aboutissent au même terme. Si tous les deux aboutissent au même terme, donc il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas d'opposition. Mais il y a deux manières différentes. Il y a une manière naturelle et une manière surnaturelle. La manière naturelle d'aimer, c'est de respecter la partie qui aime le tout, naturellement, et qui se dépasse en aimant le tout. Ça, c'est la manière naturelle d'aimer. Alors, je passe par les escaliers. Je passe par tous les intermédiaires. La manière surnaturelle d'aimer, je télescope le moyen terme, puisque c'est Dieu qui vient devant moi. Et on pourrait faire ce chaîne si vous voulez. Ça nous aiderait à comprendre, pour voir le point de vue. Bon, je vais là. La manière naturelle d'aimer. Il aime son bien naturel. Ce bien naturel, c'est le bien de la partie. Or, la partie est orientée vers le tout. Donc, il y a un premier palier, si vous voulez, un appétit naturel vers le bien naturel, vers le bien de la partie, qui est son bien naturel. Premier palier qui va vers l'autre et qui atteint le tout. Or, le tout, c'est Dieu. Donc, vous voyez le petit raisonnement. Il y a un, deux, trois. Pour pouvoir dire que j'aime d'un amour naturel Dieu au-dessus de tout. Maintenant, je prends le petit chêne au point de vue amour surnaturel, la grâce. C'est Dieu qui vient devant moi. Vous vous dites, là, c'est moi qui cherche Dieu. Je le cherche et je le découvre à partir du tout. Voilà, toutes les confusions possibles. Toutes les confusions possibles. Le Dieu, le tout, c'est Dieu. J'aime le tout, donc j'aime Dieu. Attention, non. J'aime le tout plus que la partie. Et je dis que ce tout, eh bien oui, c'est vrai. Ce tout, l'amour du tout, c'est l'amour du Dieu. En comprenant bien la différence. Tandis quand il s'agit de l'ordre surnaturel, c'est Dieu amour, que là je peux dire, c'est Dieu amour qui vient lui-même me prendre. Et ça, c'est l'ascenseur. C'est l'ascenseur de la petite galaxie. Oui. Alors, c'est Dieu lui-même qui vient vers moi et qui me donne son amour. Et en me donnant son amour, il me fait comprendre que ma béatitude, c'est l'aimer. Alors à ce moment-là, il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. Je l'aime directement. Mais j'aboutis au même terme. J'aboutis au même terme matériellement. J'aboutis au même terme matériellement, c'est-à-dire que j'aime Dieu au-dessus de tout. Naturellement et surnaturellement. Oui.
Après la faute, au niveau de l'exercice, je ne peux pas avoir un sans l'autre,
Après la faute, je ne peux vraiment aimer Dieu au-dessus de tout qu'en l'aimant surnaturellement. Mais faisons attention, parce que la grâce est donnée, parce que, on prendrait le cas d'Aristote, hein. Aristote n'a jamais dévoué la grâce, il ne pouvait pas dévouer, c'est la révélation de l'homme. Et je suis dans la perspective d'Aristote, Aristote considère que l'homme a sa vérité en Dieu. S'il considère que l'homme est un bien voulu en Dieu, il considère donc que le bien de la partie, c'est le bien du tout, et que ce bien du tout, c'est Dieu. Donc, pour pouvoir le dire, il faut dire évidemment ce qu'on dit. Je dis ça avec vous, mais en tant que théologien, pas en tant que philosophe. En tant que philosophe, je trouve ça, comme on l'a dit, c'est son intelligence est jeune. Son intelligence a été illuminée par son intellect agent. C'est sûr, il a été illuminé par son intellect agent. Et cet intellect agent, pour pouvoir aller jusqu'au bout, a mis sur moi un être physique. Et à ça, je ne dis pas.
Il faut parler d'un don talent, qui ne doit pas se la charger. Et si on parle d'un mot qui guérit,
sûrement pas. C'est comme on l'a dit. Article 4. Sans la grâce et par ses seules forces naturelles, l'homme peut s'y accomplir et être faible devant moi. Alors, oui. Saint Augustin affirme dans son ouvrage sur les hérésies que c'est l'erreur pélagienne de soutenir que sans la grâce, l'homme peut observer tous les commandements. Non, n'oubliez pas Pélage. Hein. Pélage, moine. Non, Pélage et Luther, hein, je vous ai dit au début. Il faut bien regarder ces deux extrêmes, Pélage et Luther, par rapport à la grâce. Hein. Alors, Pélage, en face de ces moines paresseux, leur dit, faites des efforts, vous ne pouvez accomplir la loi que si vous faites des efforts. Rayez-vous le matin, soyez éveillés. On voit très bien, le moine irlandais. Hein. Tenace, qui va à tout prix arriver, hein. Ayez un peu d'effort. Donc il lutte contre la paresse. Luttant contre la paresse, il montre que tout vient de l'effort humain. Saint-Augustin dit non, c'est la grâce. Luther, c'est plus irlandais, c'est une autre race, c'est ça, il ne faut pas le dire. Luther, dans un autre contexte, dit l'effort humain, ça rien de lui, ça rien de lui. Vous voyez, il est devant des gens trop efficaces. Alors il montre, il vient de l'Irlandais, il va dire, c'est un mythe, c'est très curieux de voir ça, c'est de l'extrême. Alors, Luther dit, mais non, pas du tout, c'est la grâce qui fait tout. Pélage, c'est l'effort humain qui fait tout. Luther, c'est la grâce qui fait tout. Et entre deux, Augustin. Et entre deux, Saint Thomas. Mais Saint Thomas, en précisant davantage Augustin. Et Saint Thomas s'appuyant sur Augustin. Il y a deux manières d'accomplir les préceptes de la loi. La première, c'est d'accomplir la substance même des œuvres. Par exemple, les actes de justice, ad substantiam operum. Il faudra bien comprendre ce que c'est la substance des œuvres. Hein. Parce que les œuvres sont des opérations vitales qui normalement n'ont pas de substance. Mais on emploie, le théologien emploie substance des œuvres. C'est très encore un langage théologique. La première, c'est d'accomplir la substance même des œuvres. On dirait la nature des œuvres, c'est l'essentiel des œuvres. Par exemple, des actes de justice, de force, et de même pour les autres œuvres de vertu. En ce sens, l'homme, dans son intégrité première, a pu accomplir tous les préceptes de la loi. Autrement, il n'aurait pas pu ne pas pécher, puisque pécher, ce n'est pas autre chose que de transgresser les commandements de Dieu. Mais dans l'état de nature corrompue, l'homme ne peut observer tous les préceptes divins sans une grâce qu'il aurait admise, grâce à l'homme. La seconde manière d'accomplir les préceptes de la loi, c'est d'acquitter non plus seulement la substance des œuvres, mais encore de les faire selon le mode qui convient, c'est-à-dire la charité. Alors vous avez là encore ce point de vue de la substantia opposée au molitagami. C'est très intéressant. Il y a la substantia operis et puis le molitagami. C'est pour entrer un peu dans le langage de saint Thomas qu'il faut souligner ces choses-là. Parce que c'est, là, on les voit très nettement. Hein. C'est un langage qui n'est pas commode, hein. Qui n'est pas le langage d'Aristote. Ça, c'est très vrai. Enfin, le langage, c'est plus le langage d'Aristote. C'est le langage du théologien. Mais l'inspiration profonde, c'est peut-être Aristote, hein, ça c'est autre chose. Avec la foi, mais Aristote aide. Et cette foi, donc, et cette foi, pas plus dans l'état d'intégrité que dans celui de nature corrompue, l'homme ne peut, sans la grâce, satisfaire au préceptes de l'amour. C'est pourquoi, après avoir dit dans son ouvrage sur la correction de la, et la grâce, la correction et la grâce, que sans la grâce, les hommes ne font absolument aucun bien, c'est ce que prend Luther, bon, c'est une phrase merveilleuse pour Luther, sine gratia nullum prosus bonum administratum. C'est Luther tout craché. Saint Augustin ajoute que cette grâce leur est accordée non seulement pour leur montrer ce qu'il faut faire, mais encore pour leur donner d'exécuter avec amour ce qu'ils ont vu qu'il fallait faire. Au surplus, dans l'un et l'autre état, le secours de la motion divine est toujours requis pour l'accomplissement de ses préceptes, comme nous l'avons déjà entendu. Vous voyez, c'est encore assez complexe. Hein. C'est pas comment cette première question. La nécessité de la grâce. Comment la grâce doit intervenir nécessairement? Vous voyez, saint Thomas chevauche toujours sur l'état d'intégrité, l'état de corruption. Et ça, il faut retenir. À chacun de ces articles, on retrouve ce point de vue-là. L'état d'intégrité, l'état de corruption. L'état d'intégrité, c'est-à-dire, c'est pas un état. La nature considérée en elle-même, c'est-à-dire l'homme, comme tel, considéré comme image de Dieu. Donc, L'homme, comme image de Dieu, est capable d'atteindre sa propre fin. Il est capable d'acquérir des vertus. Il est capable donc d'observer sa loi. Pourquoi ? Parce que la loi nous est donnée pour que nous soyons vertueux. La loi ancienne, c'est tout simple, la loi telle qu'elle est dans l'Ancien Testament, la loi donnée par Moïse, n'est pas une loi qui commande des choses surnaturelles. Le premier commandement n'est pas la foi, c'est l'adoration. Tout ce que la loi demande est d'ordre naturel. Et donc tout ce que la loi demande peut être accompli dans un état d'intégrité. Selon la substance de l'être. Tout peut être accompli, selon la substance. Dans un état au contraire de corruption, puisque la nature humaine ne peut plus atteindre sa propre finalité, alors on ne peut pas accomplir les préceptes sans la grâce. C'est pour ça que la loi est donnée pour que nous comprenions la désordre pécheur. Pourquoi la loi nous est-elle donnée? Pour que nous comprenions que sans la grâce, nous ne pouvons pas acquérir les vertus. Donc la loi nous est donnée pour que nous comprenions la corruption.
C'est exactement ça que dit saint Thomas.
Exactement ce qu'on dit. La loi nous est donnée pour ça, pour que nous comprenions la corruption. C'est pour ça que quand l'homme est dans un état de corruptibilité, il ne peut pas accomplir par lui-même la loi. Il ne peut l'accomplir que par la grâce de Dieu. La grâce qui vient lui redonner une puissance nouvelle pour l'accomplissement de la loi. Mais la grâce étant donnée, on accomplit non seulement la substance de l'acte, mais on accomplit aussi avec le mode. Le mode qui nous permet d'être orienté par la grâce de Dieu. Donc vous voyez que la substance de l'acte, ça veut dire tout simplement l'acte en tant qu'il est bon. Et le mot douce, ici, est pris dans son ordre surnaturel. Orienté vers une fin surnaturelle. Enfin, il peut être orienté vers une fin surnaturelle que par la grâce divine.
Alors, je reprendrai ça, parce que on est comme la fois dernière, hein, mais c'est pas plus mal. Comme ça, ça vous permet de le voir deux fois.
Comme c'est difficile.